Joseph Conrad, l'agent secret. Traduction de H.D. Davray. Chapitre 1er. Quand il s'absentait le matin, M. Verloc laissait la boutique aux soins de son beau-frère, ce qui n'offrait pas d'inconvénient, car les affaires, en tout moment assez calmes, étaient relativement nulles jusque vers le soir. M. Verloc s'inquiétait peu, d'ailleurs, de cette partie ostensible de ses occupations. En outre, sa femme était là pour surveiller son beau-frère. L'étroite boutique occupait le peu de largeur de la maison, une hideuse maison de briques, comme il en existait beaucoup, avant que l'on eût commencé à reconstruire les vieux quartiers de Londres, et cette sorte de boîte carrée avait une façade divisée en petits panneaux vitrés. Pendant le jour, la porte restait fermée. Le soir, elle s'entr'ouvrait discrètement. Derrière le vitrage s'étalaient des photographies de danseuses plus ou moins déshabillées, des paquets indéfinissables emballés comme des spécialités médicales, des enveloppes en papier jaune très mince, cachetées et étiquetées 2 shillings et 6 pence en larges chiffres noirs. Accrochées à une corde, comme pour sécher, pendaient quelques publications comiques françaises de date reculée. Il y avait aussi une grande tasse de porcelaine bleu foncé, une cassette en bois noirâtre, des fioles d'encre à marquer, des timbres en caoutchouc, des livres aux titres suggestifs. De vieux numéros de journaux inconnus, mal imprimés, aux dénominations ronflantes, la torche, le gong. Et les 2 bacs de gaz, soit par économie, soit pour le gré de la clientèle, étaient toujours baissés. Cette clientèle se composait tantôt de tout jeunes gens qui hésitaient un moment devant la montre avant de se faufiler brusquement à l'intérieur, tantôt d'hommes d'un âge plus mûr et d'aspect plutôt minable. Ceux-ci portaient généralement le col de leur pardessus relevé jusqu'à la moustache, le feutre rabattu sur les yeux. Des traces de boue maculaient le bas de leurs pantalons, vêtements de camelot élimés par un trop long usage et recouvrant des jambes qui ne paraissaient pas valoir mieux. Les mains enfoncées dans les poches, ils entraient de biais, l'épaule la première, comme s'ils avaient espéré, par cette tactique, empêcher la sonnette de se mettre en branle. Mais bien qu'irrémédiablement fêlée, cette sonnette suspendue à un ressort en spirale ne manquait jamais, à la moindre provocation, de retentir derrière le dos du client avec une impudente malignité. À ce signal, du fond de l'arrière-boutique, M. Verloc arrivait à pas pesants. Franchissant une crasseuse porte vitrée, située derrière le comptoir de bois peint, il se présentait, les yeux lourds, avec la mine d'un homme qui a passé la journée couché, tout habillé, sur un lit défait. Tout autre à sa place aurait pris soin de corriger un peu sa mise et sa physionomie. Dans le commerce de détail, une bonne part du succès dépendant de la tournure aimable et engageante du vendeur. Mais M. Verloc connaissait son affaire et n'entretenait pas la moindre inquiétude au sujet de l'impression esthétique qu'il pouvait produire sur sa clientèle. Avec un aplomb imperturbable et un regard décidé, qui semblait toujours retenir la menace de quelque machination inquiétante, il tendait à l'acheteur, par-dessus le comptoir, un objet qui, selon toute évidence, était loin de valoir le prix scandaleux qu'il en recevait. Par exemple, une petite boîte de carton qui paraissait ne rien contenir, ou l'une de ces minces enveloppes jaunes soigneusement cachetées, ou bien un livre à la couverture sale, étalant un titre plein de promesses. De temps en temps, il arrivait que l'une des danseuses jaunies trouvait preneur, comme si elle avait été vivante. Parfois, c'était Madame Verloc qui répondait à l'appel de la sonnette fêlée. Winnie Verloc était une femme jeune, la poitrine forte, sanglée dans un corsage ajusté et les hanches larges. Le regard assuré et calme, comme celui de son mari, elle gardait, derrière le rempart du comptoir, la plus impénétrable indifférence. Il arrivait qu'un client de hasard, déconcerté à sa vue, demandait en balbutiant une bouteille d'encre dont il n'avait nul besoin, et qu'il jetait subrepticement dans le ruisseau, une fois dehors, après l'avoir payé 3 fois sa valeur. Les visiteurs nocturnes, ceux aux collets relevés et aux feutres rabattus, faisaient un petit salut familier à Madame Verloc, accompagné de quelques brèves paroles de politesse, et, soulevant le battant situé à l'extrémité du comptoir, passaient immédiatement dans le salon. car la porte de la boutique était l'unique entrée de la maison où M. Verloc se livrait à son négoce interlope, où il exerçait sa vocation de protecteur de la société et cultivait ses vertus domestiques. M. Verloc pouvait passer essentiellement pour un homme d'intérieur. Aucun de ses besoins d'ordre spirituel, moral ou physique n'étant de nature à l'attirer beaucoup au dehors, il goûtait à la maison le bien-être matériel et la paix de l'âme, en même temps que les attentions conjugales de Mme Verloc et les égards déférents de sa belle-mère. La mère de Winnie, respectable dame, corpulente et poussive, au large visage tanné, apparaissait toujours ornée d'une perruque noire que surmontait un bonnet blanc. Ses jambes enflées la rendaient inactive. Elle se prétendait d'origine française, ce qui pouvait bien être vrai. Veuve d'un restaurateur qui la laissa fort démunie, elle s'était créée des ressources en sous-louant sa maison en appartement meublé pour célibataire. Cette maison, située dans le voisinage d'une longue rue déchue de sa splendeur première, était comprise administrativement dans l'aristocratique quartier de Belgravia, répartition topographique qui présentait un incontestable avantage pour la rédaction des annonces captieuses destinées à amorcer les chalands. Néanmoins, les clients de la digne veuve n'étaient pas précisément de la catégorie la plus distinguée. Quels qu'ils fussent, d'ailleurs, Winnie aidait sa mère à assurer leur confort. En elle aussi, on pouvait reconnaître des indices de la descendance française dont se targuait la vieille dame. Par exemple, dans l'art qu'elle apportait à disposer son abondante chevelure ou à ajuster ses vêtements. Winnie joignait à ses talents d'autres charmes. Sa jeunesse, son teint clair, ses formes généreuses et son impénétrable réserve qui agissaient sur les locataires comme une provocation et n'allaient pas jusqu'à lui interdire des dialogues menés d'une part avec entrain et d'autre part, la sienne, avec une sereine amabilité. M. Verloc, en tout cas, ne demeura pas insensible à ses attraits. Client intermittent de la logeuse, il arrivait puis repartait sans aucun motif apparent. D'ordinaire, il débarquait à Londres, venant du continent, comme la grippe. Seulement, la presse ne trompettait pas son arrivée à lui. Ses visites étaient dénuées de tout apparat. Il déjeunait dans son lit, où il se prélassait jusqu'à midi, et parfois même plus tard encore. S'il quittait la place Belgravia pour quelque mystérieuse affaire, il en partait tard et y rentrait de bonne heure, aux environs de 3 ou 4 heures du matin, et, à suivre les détours qu'il faisait pour revenir, on aurait cru qu'il éprouvait de singulières difficultés à retrouver le chemin de son logis temporaire. À son réveil, vers les 10 heures, lorsque Winnie lui apportait son déjeuner, il lui adressait ses civilités sur un ton badin, avec la voix enrouée et épuisée d'un homme qui aurait parlé sans discontinuer pendant plusieurs heures. Ses gros yeux lourds, chargés de regards amoureux et languissants, s'attachaient à chacun des gestes de la belle fille, et ses lèvres épaisses distillaient de mielleuses flatteries. La mère de Winnie professait une très haute estime pour M. Verloc. De l'expérience qu'elle avait pu acquérir dans les affaires, la brave femme s'était fait un idéal de bonne manière, d'après celle des habitués du comptoir, et M. Verloc approchait de cet idéal, il l'atteignait même. Naturellement, mère, nous vous garderons avec nous, vous et vos meubles, avait déclaré Winnie quand le mariage fut décidé. Car on abandonnait la maison meublée, M. Verloc ayant opiné d'un ton d'oracle que, pour ses occupations, cela valait mieux ainsi. En quoi consistaient ses occupations, il ne le révéla jamais. Toutefois, peu de temps avant le mariage, il s'avança jusqu'à confier à Winnie qu'elle touchait à la politique. Même il l'avertit qu'elle aurait à se montrer aimable envers ses amis. Ce à quoi elle répondit, avec son regard direct et impénétrable, que c'était bien naturel. Et la belle-mère ne put jamais découvrir s'il avait plus tard mieux renseigné sa femme. Dès que les fiançailles furent officielles, M. Verloc prit la peine de se lever avant midi. Pour se concilier la sympathie de l'invalide qui ne quittait guère son siège, dans la salle à manger du sous-sol, M. Verloc descendait prendre son petit déjeuner en bas. Il caressait le chat, tisonnait le feu, et il manifestait une évidente répugnance à quitter le confort un peu fétide du sous-sol. Néanmoins, il passait toutes ses soirées dehors et ne rentrait que très avant dans la nuit, sans jamais offrir à Winnie de la mener au théâtre, comme un monsieur aussi gentil que lui aurait dû le faire. Les nouveaux époux se chargèrent donc de la logeuse et de son mobilier, comme il avait été convenu, et la belle-mère éprouva quelques déceptions devant l'aspect sordide de la boutique. Le séjour dans cette étroite rue fut d'ailleurs funeste pour les jambes de la vieille dame, qui prirent d'énormes proportions. Mais, d'autre part, elle se trouvait débarrassée de tout souci matériel. C'était bien quelque chose. La nature pondérée de son gendre lui inspirait un sentiment de parfaite sécurité. Incontestablement, l'avenir de sa fille paraissait assuré, et peut-être aussi celui de son fils Stevie ne l'était pas moins, par suite de cet heureux mariage. Il avait toujours été une cause de souci, ce cher Stevie. Mais maintenant, elle commençait à espérer que le pauvre garçon serait à l'abri des tracas de ce monde. Et au fond de son cœur, elle ne fut peut-être pas fâchée de constater, d'année en année, que les Verloc restaient sans enfants. Comme cette circonstance semblait laisser M. Verloc parfaitement indifférent, et qu'au surplus Winnie dispensait à son frère une affection quasi maternelle, c'était peut-être ce qui pouvait arriver de mieux pour le dit Stevie. Fort difficile à caser, en effet, ce garçon. Faible de santé, on eût pu lui trouver une assez jolie figure, malgré son aspect chétif, n'eût été sa lèvre inférieure qu'il laissait toujours pendre lamentablement. Grâce à notre excellent système d'instruction obligatoire, il avait tout de même appris à lire et à écrire. Mais, placé dans une maison de commerce où il fut affecté au département des courses, il se montra peu brillant dans cette carrière. Il oubliait ses messages, facilement détourné du droit chemin par le spectacle des chats et des chiens errants qu'il suivait le long des ruelles étroites jusque dans les impasses les plus nauséabondes. Par les comédies de la rue qu'il contemplait la bouche ouverte, au grand dommage des intérêts de son patron, ou par les drames des chevaux tombés, drames poignants qui lui arrachaient parfois des cris aigus, au grand déplaisir des curieux, lesquels n'aimaient pas être dérangés par ces accents de détresse, dans l'agréable contemplation d'un spectacle national. Il arrivait aussi que, lorsqu'un policeman grave et protecteur voulait le reconduire, Stevie perdait totalement, pour quelque temps du moins, la mémoire de sa propre adresse. Une question un peu brusque le faisait bégayer jusqu'à la suffocation, et si quelque chose le tourmentait, il se mettait à loucher d'une façon horrible. Pourtant, c'était encourageant, il n'eut jamais de crise nerveuse caractérisée. Au jour de son enfance, devant les mouvements d'impatience du brutal restaurateur, il se contentait de se réfugier derrière les jupes courtes de sa sœur. Par contre, on eût pu le soupçonner de dissimuler un fond de perversité maligne. Lorsqu'il eut 14 ans, un ami de feu son père, représentant d'une fabrique étrangère de lait concentré, lui avait attribué un emploi dans ses bureaux. Mais certains après-midi de brouillard, en l'absence de son patron, on l'avait surpris en train d'allumer un feu d'artifice dans l'escalier. Les majestueuses fusées, les soleils furieux, les pétards assourdissants détonnaient en succession rapide, et l'affaire aurait pu devenir grave. Une panique s'empara de la maison. Des commis, l'œil égaré, suffoqués, se bousculaient dans les couloirs pleins de fumée. Des chapeaux hauts de forme et de vieux messieurs déboulaient les uns derrière les autres, franchissant plusieurs marches à chaque saut. Il fut difficile de découvrir quel motif avait poussé Stevie à cet accès d'originalité. Ce n'est que plus tard que Winnie put lui arracher une vague confession, où elle crut démêler que deux de ses jeunes collègues, ayant travaillé son imagination par quelque histoire de torture ou de cruauté, il avait cru faire acte de justicier en mettant le feu à la maison. Quant au patron, jugeant Stevie dangereux autant qu'inutile, il le congédia sur le champ. Après cet exploit altruiste, Stevie fut relégué au sous-sol de la maison de Belgravia, où il l'aida à laver la vaisselle. On le préposa en outre au nettoyage des chaussures de messieurs les locataires, qui lui donnaient de temps à autre un shilling. Et M. Verloc était au nombre des plus généreux. Mais ses largesses ne formaient pas un total bien considérable, et les intérêts composés de ce capital ne permettraient jamais aux bénéficiaires de vivre de ses rentes. Si bien que lorsque les fiançailles de Winnie furent décidées, la mère ne put se retenir de soupirer et de se demander, en jetant un regard vers le sous-sol, ce que deviendrait maintenant le pauvre Stevie. Heureusement, M. Verloc parut disposé à l'héberger, comme sa future belle-mère, et au même titre que le mobilier de la famille, le plus clair de leur fortune. Toute la maisonnée émigra donc vers la nouvelle demeure. Les meubles furent distribués pour le mieux dans la maison. La mère et le fils furent confinés dans les deux pièces de derrière, au premier étage. Entre-temps, Stevie, avec une soumission aveugle et tendre, aidait Winnie aux travaux du ménage. Un fin duvet, comme une brume d'or, adoucissait à présent la ligne dure de sa mâchoire inférieure, et M. Verloc se disait parfois qu'on devrait bien songer à placer cet adolescent. Stevie occupait ses loisirs à décrire des circonférences sur du papier avec un crayon et un compas, et il y mettait toute son application, les coudes aplatis sur la table de la cuisine, tandis que, du fond de la boutique, par la porte restée ouverte, sa sœur le surveillait avec une vigilance toute maternelle.